Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas roter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 12 juin. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et nous ne dirons pas bonjour à Marine qu'on retrouvera la semaine prochaine et qui n'est pas présente aujourd'hui, mais aujourd'hui nous on a un sacré sommaire et avec des films d'ailleurs trois films qui sortent aujourd'hui.
Trois films ? Ah oui, bah entre autres donc le nouveau Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams qui avait déjà réalisé il y a 4 ans la première mouture en fait de cette nouvelle réappropriation de la série
de Spock
et Kirk.
Et puis, il sera question de la Grande Boucle avec une interview de Laurent Tuel, le réalisateur, et puis de Clovis Cornillac, parce qu'ils étaient là à Montpellier et que le film a été tourné à Montpellier. Donc, ils ont fait un gros truc autour de cette sortie aujourd'hui. Et puis, ce qui sera un peu plus intéressant quand même, c'est l'interview d'Alain Guiraudy pour le film L'Inconnu du Lac qui sort aujourd'hui. Et puis, un dernier film.
Une sortie, c'est un film qui est sorti la semaine dernière, Iceman. C'est l'histoire du tueur à gages le plus connu apparemment, ou l'un des plus connus aux États-Unis.
C'est Cinérama.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
Et j'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Et tout de suite, des nouvelles du capitaine Kirk et de son équipage.
James Tiberius Kirk. Le cœur de l'Enterprise. Le leader trop sûr de lui qui marche à la bravade. La vie n'est à ses yeux qu'une grande aventure. Mais il est seul. Né dans la bataille, l'héritier d'une légende, que fait un homme frappé d'une telle malédiction? Il craint de commettre l'erreur qui serait fatale à son équipage. Et moi, je vais m'assurer qu'il la fasse.
Bon, là, il s'agissait du méchant Khan.
Avec sa grosse voix.
Interprétée de façon terrible par un acteur dont je n'avais jamais entendu parler. Benedict Cumberbatch.
Benedict.
Okay. Voilà, Benedict. Non masculin. Donc, autant l'avouer, j'ai jamais été un fan des séries Star Trek, ni des nombreux films qui en sont tirés. Donc là, c'est le 11e. L'univers Star Trek réactive néanmoins des souvenirs d'enfance, un parfum de nostalgie. Les aventures du capitaine Kirk et de son acolyte Vulcain Spock à bord de l'Enterprise ont toujours suscité chez moi une perplexité mêlée à un ennui me plongeant dans un état léthargique. Un peu comme si Derek avait été propulsé dans l'hyperespace et s'exprimait avec un vocabulaire abscon. Le jargon pseudo-scientifique saupoudré de réflexions métaphysiques et mystiques a toujours questionné ma capacité à analyser cette franchise mythique et qui possède de nombreux fans un peu partout dans le monde et peut-être même l'univers. Comme dit Spock en substance dans Star Trek 2 que j'ai revu lundi, avant l'avant-première, en s'adressant à un personnage humain, il est intelligent, mais comme tout humain, il pense en deux dimensions. Vous savez de ça, il me manque une troisième ou une quatrième dimension, mais il y a toujours eu des dialogues dans les films des Star Trek qui m'ont toujours un peu laissé vraiment perplexe. Mmh. Bon, ça doit être... Bon, à mon avis, cette série créée par Gene Roddenberry dans les années 60... Et néanmoins, elle possède une richesse puisque énormément d'écrivains de science-fiction, dont Sturgeon, ont écrit des scénarios. Donc, c'est des choses quand même qui sont à revoir là-dedans. Bon, comme il n'est toujours pas trop tard pour réviser ses jugements, voire même devenir intelligent, j'ai décidé, avant de m'attaquer au nouveau film de Abrams, de revoir Star Trek 2, La colère de Khan, de Nicolas Meyer. Un peu par hasard, et ce qui tombait bien, parce que Into Darkness en est une sorte de relecture. C'est une sorte de variation, de remake. Puisque le personnage maléfique de Khan, qui était interprété à l'époque par Ricardo Montalban, est repris. Voilà, le film de Nicolas Meyer, je l'ai trouvé assez ennuyeux. Qu'en est-il de la remise au goût du jour d'une série jugée par certains cultes et d'autres ringardes ? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprécier les nouvelles aventures de nos héros galactiques sans être un aficionado.
Monsieur Spock, l'esprit de l'Enterprise, ce génie ignorant la peur... Dotés de la force calme de l'intelligence guide chacune de leurs missions. Mais regardez de plus près et vous verrez un étranger déraciné, un homme de deux mondes. une réalité qui le déchire, une lutte perpétuelle entre ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Que doit-il faire ? Suivre son raisonnement, épouser la logique sur la voie de la raison ou suivre son cœur, conscient que les émotions incontrôlables peuvent le détruire. Je vais l'aider à choisir.
Alors c'est pas un extrait du film, hein, c'est du teasing. Hein, ça.
Oui. loin un peu du côté, je dirais, désuet des premiers films Star Trek, on peut se dire qu'Into Darkness est bien un film de science-fiction contemporain. Un gros blockbuster efficace avec son quota de scènes d'action impressionnantes, dont une ouverture rappelant bizarrement Indiana Jones, et puis une éblouissante course-poursuite dans une ville futuriste au design quand même saisissant. Bien aidé par une 3D finalement pas si mal que ça. Voilà, supérieur au premier, on appelait ça un robot, signé déjà J.J. Abrams. Il y a 4 ans, cette appropriation moderne d'un univers bien typé possède les qualités de ses défauts, soit un opportunisme et une efficacité nécessaires. Derrière un humour bon enfant, mais pas toujours très très fin, et de formidables effets spéciaux, Abrams dynamise agréablement une franchise vieillissante grâce à une mise en scène alerte, un poil surdécoupé, péché mignon des réalisateurs d'ailleurs qui viennent des séries actuelles, et à des personnages plus fouillés que d'habitude. Le scénario est un peu confus dans un premier temps, même si en gros on a compris que l'Enterprise doit faire face à des forces terroristes, incarnées donc par l'impitoyable Khan, qui est interprété donc par l'acteur éblouissant
Bénédicte.
Ces forces ont un peu une référence un peu appuyée à l'actualité contemporaine, notamment à la capture de Ben Laden. C'est-à-dire que Khan représente un peu une arme de destruction massive à lui tout seul. Voilà, nous sommes bien dans un film actuel et surtout une grosse machinerie qui tente de satisfaire le public des Transformers et les nostalgiques d'une SF plus cérébrale et pépère. Heureusement, le scénario réserve encore dans sa deuxième partie quelques surprises et certaines finesses loin du prodige belliqueux que l'on redoute pendant plus d'une heure. Et puis bon, c'est pas tous les jours que Spock sort un peu de ses gonds et veut se battre par colère pour venger son copain Kirk.
Ouais. Voilà. Et puis là, visiblement, hein, c'est un immigré Klingon, lui, hein. Enfin, là, dans ce qu'on a entendu dans le teaser, là. Mais il est partagé entre deux cultures, enfin, comme ça que c'est présenté, oui. Donc voilà, il est déraciné, quoi.
Mais Spock est le personnage le plus intéressant, à mon sens, de cette série, puisqu'il est vraiment entre l'humain et le Vulcain, puisque si je crois que sa mère est humaine.
C'est pas très net, en tout cas.
C'est pas très net.
Voilà. Donc, Star Trek Into Darkness, c'était en avant-première hier.
C'était en avant-première hier, qui sort partout. Voilà. Ouais. Et le public était très nombreux, avec énormément de fans de Star Trek. Il y a même eu
des déguisements,
des jeux à gagner.
Ah oui, voilà. D'accord.
Ils ont fait un petit quiz.
C'est comme une absurde séance, mais en version blockbuster.
Voilà, je m'y attendais pas. Hein. Mm-hmm. Et puis, ça nous a évité toutes les bandes-annonces et les pubs.
Oui, c'est pas plus mal.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
On passe au gros morceau de cette émission, l'interview d'Alain Guiraudy qui a commis L'inconnu du lac, un film qui sort aujourd'hui, un film interdit au moins de 16 ans. Et pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement il y a des scènes de sexe non simulées et des scènes de sexe entre hommes, ce qui est assez rare au cinéma. Et on a parlé de ça avec lui et d'autres choses. Alors l'interview, elle a duré un peu plus de 35 minutes, 40 minutes. Ça s'est passé dimanche. J'ai dû en garder seulement 10 minutes. Les voici.
Je m'appelle Alain Guiraudy. J'essaie de faire un cinéma singulier, de cultiver ma singularité.
Salut. Bonjour. T'as pas vu des femmes ?
Si tu veux mon avis, tu t'es trompé d'endroit, là.
Alors, c'est un film, effectivement, la presse en a parlé aussi, parce que c'est un film, comme on dit, avec des scènes explicites, et puis il est interdit au moins de 16 ans, donc on peut en parler ouvertement, comme ça. Mais c'est un film, donc, on pourrait le résumer comme ça, qui parle d'amour, et qui fait pas l'économie du sexe.
En tout cas, les organes sexuels en fonctionnement, ça reste un peu la dernière ellipse au cinéma, quoi. C'est un peu là. On a toujours tendance à ellipser ces moments-là. Je voulais vraiment faire un peu un tour de la question amoureuse, quoi. C'est-à-dire de la passion à l'amour-amitié. La passion, le sexe, c'est pas une mince affaire là-dedans. Ça passe aussi par le sexe, ça passe surtout par le sexe. Et puis oui, j'avais envie de représenter ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire et puis aussi de, on va dire, de sortir aussi. C'est vrai qu'on a tendance à arranger les scènes de sexe non simulé du côté de la pornographie. Pour moi, il était important. Enfin, et je pense qu'il est toujours important de les réassocier à de l'amour, à de la parole, à de l'étreinte amoureuse, quoi. C'est vrai que c'est pas la peine de ranger tous ces trucs, chacun de son côté, quoi. Ça, dans la vie, ça en fait partie, et autant représenter ça de cette façon au cinéma, quoi.
Je suis vachement tracassé par cette histoire avec Michel.
Fais gaffe, y a pas que le cul dans la vie.
Mais c'est pas que le cul avec lui.
Bah, si vous passez pas vos nuits ensemble, c'est quoi? J'en sais quelque chose. Tu vois, il y a même pas 2 ans, je crois que ça m'intéressait carrément pas d'avoir des rapports autres que sexuels. L'histoire d'amitié, ça me gonflait, je trouvais ça sans intérêt. Maintenant, tu peux pas savoir comme ça te fait chier de pas te voir pendant un jour. Quand je te vois arriver là-bas, j'ai le cœur qui se serre, comme quand je suis amoureux. Tu vois un peu? Et pourtant, j'ai pas du tout envie de coucher avec toi. Toi aussi, t'as envie d'être avec moi. C'est pas pour me baiser, j'imagine. Non. Dormir seul, bouffer seul, tout faire tout seul, ça commence à devenir pénible. Et tu vois, je me demande si on est obligé de baiser avec quelqu'un pour dormir avec.
Enfin, si t'as envie de dormir avec quelqu'un, c'est quelque part t'as envie de lui.
Mais c'est une autre envie.
Vous mettez une espèce de frontière radicale entre ces deux personnages qui finalement ont beaucoup de choses à se dire, mais qui vont pas vivre cette histoire parce que il y a pas le désir du corps.
Ça me plaisait, moi, d'avoir un contrepoint à une relation passionnelle et extrêmement sexuée, un amour plus amour-amitié. Je pense que c'est une vraie histoire d'amour entre Henri et Franck. Et Henri fait des choses par amour aussi, quoi. Mais désexué, quoi, qui correspondrait un peu à un idéal. Mais c'est un idéal d'amour, à cet idéal qu'on avait chez les troubadours au temps de l'amour courtois, où l'idée c'était de dormir auprès de la dame sans coucher avec, quoi. Dans Le Banquet de Platon, il y a des choses de cet ordre-là, quoi. Socrate parle aussi de ça, Alcibiade. Et je pense que c'est aussi une question qui nous traverse un peu tous, quoi. Et moi, je trouvais aussi intéressant d'avoir ce contrepoint, parce que le monsieur en question, Henri, a été libertin lui aussi par ailleurs, quoi. Cette idée qu'il revient de cette quête effrénée du plaisir, parce que il voit pas trop où ça le conduit. Moi-même, je m'interroge beaucoup sur ça. Hein. Où est-ce que ça nous conduit, la recherche seule, la simple recherche du plaisir? Je pense pas que ça me plaît pas non plus vers où ça nous conduit. Ouais, quand je disais au début de l'interview que je voulais faire un peu un tour de la question amoureuse, ça fait partie de ce tour de la question amoureuse pour moi. Ouais, l'amour platonique, quoi. En fait, oui.
Mais ton mec, quelque part, il a pas tort quand il me fait sa crise de jalousie. Il a bien senti ce qui se passait. Ouais, il est venu me voir tout à l'heure. Mais ça va, c'était moi qui étais avec toi dans le bois mardi soir. Il avait un drôle de truc dans l'œil. Ok, il est beau, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Tu te rends peut-être pas compte tellement t'es amoureux, mais je te jure qu'il est bizarre.
Il y a quelque chose aussi qui les sépare, c'est le corps, parce que Henri, c'est quelqu'un qui est enveloppé, qui d'ailleurs est pas nu dans un lieu où la majorité des hommes sont nus, parce qu'en plus, ils ont un culte du corps beau. Et ça pose la question justement de comment montrer un corps nu et comment montrer un corps masculin, parce que ça aussi, le cinéma le fait très peu. Là, on voit quand même des testicules, parce que c'est du naturisme. Ouais. Quelle question vous êtes posée finalement? Comment poser la caméra trop, pas trop bas, fin...
Pour clarifier le truc, Henri, pour moi, il est à l'extérieur du lieu de drague. Il est toujours en marge. Hein. C'est vrai qu'il se met jamais à poil. Et de toute façon, lui, il n'est pas là pour draguer, quoi. Hein, voilà. Et même sur le lieu de drague à proprement parler, j'ai quand même mis un point d'honneur à mettre aussi des gens qui ont un reflet de la réalité, des gens avec de l'embonpoint, du ventre, des gens qui sont plutôt jeunes aussi. Bon, c'est marrant parce qu'on s'est vachement posé la question en préparation. On se dit, putain, quand même, est-ce que ça va pas faire un peu le truc, l'image hyper choquante? Allez, on vous montre des couilles et des bites. Et puis j'avais été au Cap d'Agde J'avais fait quelques photos comme ça et des trucs qui étaient, que je trouvais même très drôles, quoi. Je l'ai plus, on va dire, joué voilà, tel que moi je le vois, quoi. Mais je pense que je l'ai plus joué avec de la malice, quoi. Je pense que c'est plus joué avec de la malice qu'avec une réelle volonté de choquer, quoi.
Il y a des plans hein, qui sont assez répétitifs et d'ailleurs le film joue énormément sur la répétition, hein, puisque c'est plusieurs jours, donc à chaque fois il y a l'arrivée sur le parking, il y a le bois à traverser, il y a la plage, il y a le lac, donc il nage, il y a beaucoup de discussions sur la plage, il retraverse le bois, il reprend la voiture, et il y a le jour, la nuit. Et en même temps, c'est le même lieu, tout le temps. Voilà, donc ça c'est... Mais des lieux... Enfin, des lieux hétérogènes quand même à l'intérieur de ce lieu. Ça, vous l'avez tout de suite conçu au scénario, vous ne vouliez pas bouger de cet endroit.
Oui. Non, l'idée, c'était de rester sur ce lieu unique, de camper une géographie et même une scénographie, je dirais, très très simple, très simple et très lisible. Ne pas partir avec les personnages chez eux le soir, même pas avec le principal, parce que de toute façon, je pense que ça aurait eu un effet de banalisation, quoi, j'ai l'impression. Là, j'avais envie de rester dans une espèce de huis clos à ciel ouvert, et de huis clos qui se resserrent quand même peu à peu, de très solaire et diurne, passe petit à petit vers quelque chose de plus cauchemardesque et de plus nocturne, quoi. Le final est un long crépuscule, quoi.
Inspecteur Damroder.
Bonjour.
Bonjour.
Vous connaissiez la victime ?
Non.
Vous avez vu les photos dans les journaux ?
Oui. Moi non.
Regardez celle-ci, elle est mieux définie.
Ouais, je le connaissais. Je l'ai vu quelques fois par ici.
De ce côté-ci ? Il était homosexuel ?
J'imagine.
Et vous, vraiment, ça vous dit rien ?
Non. Mais je suis pas toujours là non plus.
Et mardi après-midi ?
Ah, j'étais là.
Et vous ?
Moi aussi.
Vous étiez ensemble ?
Non.
Et vous êtes resté jusqu'à quelle heure ce soir-là ?
Généralement, je repars vers les 6h, 6h30.
Et ce soir-là ?
Pareil.
Et vous ?
Tard. Il faisait déjà nuit quand je suis reparti.
Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à la tombée de la nuit ?
J'étais dans le bois.
Avec vue sur le lac ?
Pardon ?
Vous voyez le lac de là où vous étiez ?
Non, je vous ai dit, j'étais dans le bois.
Même dans le bois, on peut voir le lac ?
Bah, pas de là où j'étais.
Vous étiez seul ?
Non.
Attendez, on a besoin d'un alibi ?
On n'en est pas là. Je voulais juste savoir si vous aviez rien remarqué.
Non.
Et vous ?
Non plus.
Il y a une enquête policière et donc il y a un climat qui s'installe. Et effectivement, on pourrait aller dans un thriller, mais vous restez tout le temps sur le fil, en fait. Hein. Vous n'avez pas voulu du tout aller dans le genre.
Il y a peut-être un élément de genre, je ne dirais pas lequel, mais il y a peut-être, quand j'y réfléchis vraiment, il y a un truc, une péripétie que j'ai directement emprunté au genre du thriller, quoi. Après, voilà, moi, je restais sur la corde entre... On va dire, je voulais faire un film d'angoisse. Je voulais aussi garder l'histoire d'amour, quoi, tout le temps, quoi. L'histoire d'amour et pas perdre de vue la comédie, le burlesque, quoi, non plus, même jusqu'au climax, quoi. Je pense qu'il y a encore des choses qui font rire, quoi, dans les salles. Je suis plus dans un mélange des genres, on va dire, que dans un thriller pur jus. Et puis en plus, c'est marrant parce que je pense aussi que l'angoisse fonctionne bien en regard à la comédie, c'est-à-dire que je pense qu'on peut aussi d'autant plus se choper les boules sur la fin qu'on a bien rigolé, quoi, pendant le film. Voilà, c'était ça aussi l'idée. Et puis, l'histoire d'amour et puis la sensualité aussi. J'avais pas du tout envie de perdre la sensualité. Alors, je suis pas sûr que le thriller tue la sensualité. Hein. Je pense que ça peut très bien aller de pair ensemble, mais pour moi, il n'était pas question d'aller verser de certains côtés. Et puis, je pense que le thriller, en tout cas, en l'occurrence, est beaucoup plus existentiel.
C'est pour ça, d'ailleurs, hein, je pense que les éléments sont très importants. Le son du vent, ça peut être le son du vent, ça peut être aussi la nuit, effectivement, la pénombre, enfin voilà, qui participe à ce climat d'angoisse, hein, finalement.
Oui, oui, je pense. Oui, tout à fait. On est quand même dans des moyens de cinéma. Même certaines nappes, il n'y a pas de musique, mais il y a des avions qui prennent en charge ce que prend en charge le cinéma traditionnel, ce que dans le cinéma traditionnel est pris en charge par des nappes musicales. Voilà. Donc, c'était plutôt des avions ou des bagnoles au loin, quoi. Voilà.
À ta place, j'aurais peur.
C'était Alain Guiraudy, donc le réalisateur de L'Inconnu du Lac, qui sort aujourd'hui, peut-être la suite de cette interview, la semaine prochaine. En tout cas, c'est un film que je vous recommande, pas seulement pour les testicules en pleine mirette, parce que c'est vrai que le cinéma n'est pas habitué à ça, il s'en est expliqué, mais parce que c'est plutôt bien réalisé, même si on sent qu'il y a de l'économie derrière, mais c'est quand même bien réalisé avec une vraie forme cinématographique. Avant de retrouver la deuxième interview avec un autre réalisateur qui n'a rien à voir, Laurent Thuet, et puis Clovis Cornillac, on va parler de Iceman.
Cinérama sur Divergence FM.
Alors rapidement sur Iceman, un premier film d'Ariel Vroman. Voilà, il s'agit d'une histoire vraie, celle de Richard Kuklinski, un des tueurs à gages les plus célèbres des États-Unis, pour avoir assassiné plus de 100 personnes. Enfin, célébré en fin de parler pour avoir exécuté ses victimes avec un sang-froid et une absence d'émotion, il a fini par être surnommé Iceman. Logiquement. En parallèle de sa grosse part d'ombre, il vivait en parfaite harmonie avec sa femme et ses filles modèles inscrites dans une école catholique. Détail qui, dans le film, a son importance, vu les références nombreuses à Martin Scorsese. Bref, la parfaite petite famille ignorait magnifiquement jusqu'à la fin les agissements monstrueux du bon père de famille. Le film retrace sobrement, sans effet appuyé, le destin de ce personnage hors norme des années 60 à son arrestation en 86 par les fédéraux. Voilà, ce premier long métrage aurait pu donner un très grand film, un biopic tourmenté et lyrique dans la lignée des grands films de Scorsese. Mais le film demeure trop timoré pour jouer dans la cour des grands et il manque de souffle, d'ampleur. Il s'agit vraiment un exercice de style qui ne pose aucun regard complexe sur la violence. On a l'impression d'avoir déjà vu ça 100 fois dans 100 films de mafia récents. Enfin, bon, la reconstitution des différentes époques, elle est crédible. On prend un certain plaisir à suivre un peu le parcours de ce tueur qui est constamment en fait, à la lisière de la schizophrénie. Bref, bon, le film baigne dans une superbe lumière aussi. Mais le film pêche par manque de style, de flamboyance. Tout paraît timoré, coincé dans les références polies au cinéma des années 70. Bref, sans plus en fait. Hein. Reste l'interprétation de Michael Shannon qui est impressionnant, qui change un peu de registre et qui là il a un vrai rôle de composition, voilà.
Et puis il y a James Franco aussi qui.
Alors il fait une apparition de 30 secondes à peu près, une minute. Okay. Je revenais pas, il se fait abattre très rapidement alors qu'il est second sur l'affiche. Et il y a le retour aussi de Winona Ryder, qui a un rôle plutôt intéressant, une actrice quand même qui avait un peu disparu des écrans depuis quelques années.
Effectivement. De Iceman, donc, qui continue à passer au Gaumont Multiplex.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Et voilà le deuxième film de Cinérama sur la pédale. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est la vraie. Hein. C'est La Grande Boucle de Laurent Thuet. Film avec Clovis Cornillac, Bully Lanners et Bruno Lochet. Entre autres. Et donc, on écoute. Alors, bon, c'est un film qui se passe sur le Tour de France. C'est le ton de la comédie. C'est plutôt comédie populaire. Et on verra que Clovis Cornillac, se dit que finalement, c'est un genre maudit.
Je m'appelle Laurent Thuet. Je suis réalisateur.
On va sa face, sache que je te nique ta race.
J'ai commencé il y a un grand nombre d'années, puisque je voulais faire du cinéma dès l'âge de 15 ans. Donc je suis venu à Paris pour ça, je viens de Nantes.
À l'époque, j'ai taquiné la pédale, c'est vrai.
On a monté une petite société de production qui s'appelait La Vie est Belle pour faire nos courts-métrages comme ça. Et de courts-métrages, j'ai fait 3-4 courts-métrages, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais voilà, en faisant des erreurs, en apprenant des erreurs, en voyant que les films n'étaient pas terribles, on évolue, on essaye et on continue de faire des erreurs. Et j'espère que le prochain film, il y en aura un petit peu moins. Voilà.
Et votre dernier film, donc, c'est La Grande Boucle. Un film, alors, autour du Tour de France, c'est pas le premier long-métrage qu'on voit sur le cyclisme ou sur le vélo, mais c'est le premier film quand même sur le Tour de France.
À l'intérieur du Tour de France, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de films qui ont été faits. Il y a eu un film qui a été commencé par Michael Cimino, la personne qui a fait le Deer Hunter, en fait, le Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro. Il a fait un film en 84-85, il avait commencé à tourner avec Dustin Hoffman, ça s'appelait The Yellow Jersey. Et depuis, il n'y a jamais eu aucun film qui a eu le droit, parce que c'est quand même il faut obtenir l'autorisation de pouvoir venir là, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Et là, on a présenté notre projet, on a parlé avec les gens d'Assaut. Moi, je voulais faire un film qui... ils ont joué le jeu, parce que Il y a beaucoup de choses à dire sur le vélo, mais je ne voulais pas faire un film polémique. Moi, je voulais faire un film qui nous rappelle les émotions, les souvenirs qu'on a enfant, l'espèce de joie mêlée aussi d'ennui, d'attente. C'est cette ambiance que je voulais retrouver. Elle est en toile de fond dans le film, parce que ce n'est pas que ça. Nous, on raconte l'histoire d'un type c'est une comédie, il est sentimental d'une certaine manière. Il a perdu sa femme, il a des problèmes avec elle, il décide sur un coup de tête, comme ça, de se faire un pari dont il rêve depuis tout le temps, de se faire le Tour de France, mais un jour avant les pros. Donc c'est Monsieur Tout-le-Monde qui prend son petit vélo, qui part sur la route, comme ça. Et fil en aiguille, il va se faire aider. Donc je voulais montrer aussi des gens qui viennent. C'est une espèce d'équipe de bras cassés qui vient en aide, comme ça, qui le soutiennent. Et puis de plus en plus, la presse commence à s'intéresser. Ce petit bonhomme qui est là, un jour avant les pros, puis ça crée des histoires. Et là, la fiction commence vraiment.
J'invite les volontaires du magasin, François Noël, dans la voiture numéro 5.
Ah ouais, là, il a fait fort.
Ok, d'accord, j'ai merdé.
Cette fois-ci, tu m'avais promis de vraies vacances. Il n'y en a que pour toi et ton vélo, t'es qu'un égoïste.
Moi ? Sylvie !
Et lui, vous me le virez.
Vous me virez du tour ?
Virez tout court.
C'est aussi l'histoire, donc... de François, qui est interprété par Clovis Cornillac, qui a des petits problèmes avec sa femme, hein, voilà, oui, et puis avec son enfant. Voilà. Là, c'est une comédie, vous auriez pu le traiter d'une autre manière. On pourrait faire un polar, par exemple. Imaginez un polar.
Oui, on aurait pu imaginer un polar. Mais c'est vrai que j'avais envie de retrouver un peu, de donner un peu de soleil, comme ça, sur les routes retrouvées. Il y a un côté léger à tout ça que je trouve qui fait du bien. Quoi. C'est-à-dire que, et le film est... traite des problèmes humains à l'intérieur d'un cadre de fond qui est les cours cyclistes. Voilà.
Oui. Je vous appelle parce que j'ai décidé de faire le Tour de France. En fait, je vais faire l'étape un jour avant les pros.
Ces petits rendez-vous qu'on a avec le cinéma, moi j'ai eu des moments forts comme ça dans ma vie de voir un film. Alors je le dis pas à tout le monde, mais je me suis dit, ouais, je me suis fait gauler. Je me fais gauler parce que ça me parle de quelque chose, comme un morceau, tu vois, un tube ou un truc comme ça, où tu fais, c'est un morceau de variété, et tu t'es surpris dans ta caisse à chialer sur un truc en disant « Bah ouais, ça parle de moi
ouais, !» c'est ça.
Tu fais « Mais c'est fou, quoi !» Et si tu l'entends avec d'autres gens quelque part, tu fais « Ah, écoute-le, l'autre con, avec sa chanson !» Je pense que le film, il est direct, il est immédiat, on ne fait pas les malins. À aucun moment, le film, il est malin dans le mauvais sens du terme. Il est vraiment, je trouve, il doit être vu en se disant, bah vas-y, emmène-moi, on verra. Mais c'est compliqué parce que souvent, on a des a priori, alors que ce soit sur le vélo, que ce soit sur le cinéma populaire, que ce soit sur...
C'est-à-dire que dire ça aujourd'hui, c'est dire si on fait un film populaire, est presque péjoratif.
Oui, ce qui est dingue, quoi, ce qui paraît fou. Parce que c'est comme si c'était racoleur. Alors qu'en fait, c'est dans l'idée de fraternité, quoi, de dire on passe un moment ensemble. Voilà.
Eh oui, Clovis Cornillac qui était plutôt en forme ce jour où on l'a rencontré avec Laurent Tuel, donc le réalisateur de La Grande Boucle, un film qui a été en partie tourné en Languedoc-Roussillon. Alors, oui, Manu.
Non, je pensais au cinéma populaire qui est mal vu. Mais le cinéma populaire français, il n'y a pas grand-chose de bien, bien intéressant. Hein.
Là, je pense que...
Récemment, du moins.
Oui, oui. Puis là, ça n'ajoute pas grand-chose. Même si c'est le premier film à l'intérieur du Tour de France, comme il le dit d'ailleurs Laurent Tuel, non, je n'ai pas voulu faire un film polémique et ainsi de suite. C'est bombardé de marques. Et j'ai l'impression d'ailleurs, au niveau formel, que c'est tourné comme est montré le Tour de France à la télévision, parce que France 2, enfin France Télévisions, fait vraiment un travail remarquable pour ce qui est du spectacle, en fait. Enfin, ils assurent plus de 6 heures de direct, c'est pas évident. Et effectivement, on peut se faire vite happer en regardant, en allumant la télé, un jour de juillet, on n'a rien à faire.
Tu dis, autant regarder le Tour de France. Hein.
Voilà.
Il y a un suspense, au moins.
Presque. Donc, en tout cas, ça sort aujourd'hui, La Grande Boucle. Et par contre, je vous conseille davantage L'Inconnu du Lac. Et on passe maintenant à l'agenda.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et à l'agenda, on va continuer à parler de vélo, puisque c'est le cinéma Nestor Burma qui, samedi, fait un spécial vélo. Et oui, après avoir passé La Grande Boucle aujourd'hui, à 20h30 ce soir, vous pourrez voir, ça va commencer par Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chaumet à 14h ce samedi. Ensuite, vous pouvez aller voir Le Voleur de Bicyclette, fameux film de Vittorio De Sica. Et puis, vous pourrez terminer par Beijing Bicycle de Wang Xiaoshuai, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc ça, ça se passe au cinéma Nestor Burma. Et puis, rien à voir, mais il y a une grosse avant-première, c'est Man of Steel. Et oui, c'est pour toi, Manu, peut-être.
Superman ?
Oui, c'est celui-là. C'est Superman, mardi 18 à 20h30. C'est en version française en 3D, c'est au Royal, c'est au Méga CGR, c'est au Gaumont Multiplex, et c'est même à l'Athénée Lunel. Et puis, rien à voir, mais en face, il y aura au Centre Rabelais à 20h la projection de courts-métrages issus des kinos. Et ces courts-métrages seront présentés par les auteurs. Donc, c'est ce mardi à 20h et c'est une entrée à 3 euros.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
C'était un anniversaire aujourd'hui, c'était la 100e de Cinérama qui a connu plusieurs personnes dans son équipe. Donc aujourd'hui, toi, Manu, tu vas jouer le rôle de Marine.
Oui.
Et c'est quoi le programme de 24 notes secondes?
C'est Jean Marais, un spécial Jean Marais.
À la semaine prochaine.